Mesdames, Messieurs, bonsoir
et bienvenue à la conférence du docteur Sylvain Bréchet. Cette conférence a pour thème Big Bang et création en regard chrétien sur l'origine de l'univers. Cette soirée est organisée par le groupe des jeunes adultes de la Fédération romande des églises évangéliques de Genève, composé notamment de l'église de Mérin, de l'Espérance, de Colonie et de la Pélisserie. Nous saisissons l'occasion pour remercier l'église de la Pélisserie de nous mettre à disposition ses locaux, et plus particulièrement son pasteur Michel Jean Renaud, qui est aussi membre du groupe des jeunes adultes. Notre rencontre, nous avons pour habitude de nous rencontrer deux fois par mois, une fois pour étudier la Bible et une fois pour des activités sportives, des jeux ou des sorties. Notre prochaine rencontre est déjà agendée au 20 février. Nous aurons la possibilité de visiter la Fondation Martin Bodmer à Colonie, où est entreposée une Bible de Gutenberg, des manuscrits de l'Évangile de Jean, des partitions de musique de la main de Mozart et bien d'autres trésors encore. Et pour que cette soirée soit absolument parfaite et une réussite, nous la terminerons par une raclette traditionnelle avec des demi-meules venues tout droit du Valais. Le 5 mars, une autre date à retenir, c'est une soirée d'échange animée par Fadi Hakl de l'Institut biblique de Genève sur le thème des puissances spirituelles. Pour vous inscrire, vous aurez la possibilité de le faire à l'issue de la conférence. Vous trouverez de quoi donner votre adresse e-mail. Vous recevrez ainsi le détail de ces prochaines rencontres. À l'issue de la soirée encore, vous aurez la possibilité de rallumer vos téléphones portables. Et pour vous qui aurez laissé sonner votre téléphone durant la soirée, bien sûr, la possibilité de venir négocier une rançon. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons maintenant passer la parole à Sylvain Bréchet, que nous remercions chaleureusement de sa présence parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Il est marié, c'est un chrétien engagé, il est en doctorat en cosmologie de l'Université de Cambridge, il est enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il est aussi l'auteur du livre « Et la lumière fut ». Mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir Monsieur Sylvain Bréchet.
Voilà, bonjour mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Et ce soir, nous allons parler ensemble de Big Bang et de création. Et nous allons porter ensemble un regard chrétien sur l'origine de notre univers. Est-ce que, pour le micro, oui, est-ce
Effectivement, il était sur mute. Mille excuses, voilà. Donc ce soir, comme je le disais, nous allons parler du Big Bang et de la création, et nous allons porter ensemble un regard chrétien sur l'origine de l'univers. L'origine de l'univers, vous la voyez ici tout à gauche, c'est le Big Bang. On va en parler plus en détail plus tard. Et vous avez ici une flèche qui représente la flèche du temps, qui se déroule donc de la gauche vers la droite. Cette conférence, cet exposé, sera divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la cosmologie. On verra que la cosmologie repose en fait sur la théorie de la relativité générale, théorie qui a été élaborée par Albert Einstein, mais pas seulement. Et cette théorie donne lieu à des modèles cosmologiques. On les abordera ensemble ce soir. Et on verra que le modèle qui est toujours encore en vigueur aujourd'hui est le modèle qui commence par un Big Bang et qui est suivi ensuite par une phase d'expansion cosmique. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors le premier argument, c'est l'argument cosmologique. Le second argument, c'est l'argument téléologique, à ne pas confondre avec théologique. Et le troisième argument, c'est l'argument rationnel. Alors commençons tout d'abord par la cosmologie. Le mot cosmologie est un mot très intéressant, puisque son étymologie renferme deux autres mots le mot cosmos et le mot logos. Le mot cosmos, vous l'aurez compris, signifie l'univers en grec, et le mot logos signifie la pensée créatrice, la pensée ordonnatrice. Eh bien, ce mot de cosmologie, à ma connaissance, a été utilisé pour la première fois par le philosophe du siècle des Lumières et mathématicien Christian Wolff, qui était un disciple de Leibniz. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ce mot cosmologie se cache déjà tout un programme apologétique, puisqu'il s'agit de découvrir le logos qui se cache derrière notre cosmos. Alors, en science, en physique, la cosmologie est en fait une branche de la physique qui s'intéresse à l'univers dans sa globalité. Contrairement, par exemple, à l'astrophysique qui, elle, est intéressée aux différents objets qui peuplent l'univers, que ce soit les galaxies ou les amas de galaxies ou les superamas. La cosmologie, elle, s'intéresse donc à l'univers dans sa globalité et plus précisément à la structure de l'univers. Cette structure de l'univers est constituée de trois dimensions d'espace, la largeur, la hauteur et la profondeur, et d'une dimension de temps. La cosmologie s'intéresse également au contenu de l'univers. Ce contenu, c'est essentiellement de la matière, mais pas seulement, c'est également du rayonnement. Elle s'intéresse aussi aux lois physiques qui se trouvent dans notre univers. Ces lois sont les lois de la gravitation, les lois de l'électromagnétisme, aussi appelées lois de Maxwell, ou encore d'autres lois qui régissent la physique à l'échelle microscopique. La cosmologie, finalement, s'intéresse à l'origine de notre univers et à son histoire. Donc la cosmologie s'intéresse à l'univers de manière globale, donc elle fait une description qui a lieu à l'échelle la plus grande qui soit. Il faut savoir que l'univers qu'on peut observer, on parle d'univers observable, renferme, c'est un ordre de grandeur, environ 100 milliards de galaxies. Ces galaxies renferment des milliards d'étoiles. C'est pour vous dire si c'est grand. Donc à l'échelle de l'univers, on n'est pas capable, si vous voulez, de distinguer les galaxies entre elles. Je vais prendre un exemple pour illustrer ceci. À l'échelle macroscopique, on m'a donné un verre d'eau, donc je vais plutôt prendre le verre d'eau. Voilà, à l'échelle macroscopique, si vous regardez un verre d'eau, d'accord, puis que vous mettez le nez dessus, eh bien, si vous regardez dans différentes directions, ben, vous voyez de l'eau. Cette eau, elle est complètement homogène. Ce qui est vrai à l'échelle macroscopique ne l'est pas à l'échelle microscopique. Si vous mettez ce verre d'eau dans un microscope électronique, qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir des molécules d'eau qui sont en déplacement permanent erratique. On parle de mouvement brownien. Donc, à certains endroits, vous avez des molécules, à d'autres endroits, vous avez du vide. Et pourtant, à l'échelle macroscopique, vous avez l'impression de voir un continu. Eh bien, pour notre univers, c'est analogue. Puisque, à l'échelle cosmique, à la plus grande échelle qui soit, on n'arrive pas à distinguer ces galaxies, et donc on voit une sorte de continu de galaxies. Et à cette échelle, la force dominante, c'est la force de la gravitation. Alors il y a quatre forces fondamentales. La force de la gravitation, la force électromagnétique, la force faible qui est responsable de la radioactivité, et la force forte qui préside à la cohésion des noyaux atomiques, des particules fondamentales dans les noyaux atomiques. Ces quatre forces interviennent dans la dynamique de l'univers, mais la force qui domine, qui permet de réellement décrire son histoire, c'est la force de la gravitation. Cette gravitation, à l'échelle du cosmos, est décrite par une théorie physique qu'on appelle la relativité générale, qu'on doit à Albert Einstein, et on célèbre en ce début d'année 2016 le centenaire de l'élaboration de cette théorie. On la doit à Albert Einstein, mais pas seulement. Einstein, pour pouvoir développer les mathématiques relativement complexes qui permettent d'exprimer cette relativité générale, a dû faire appel au meilleur mathématicien de l'époque, David Hilbert, et également un autre mathématicien très connu qui est Élie Cartan. Et c'est avec l'aide de Cartan et d'Hilbert que Einstein a pu développer sa théorie de la relativité générale. Cette théorie de la relativité générale, cette théorie de la gravitation, a essentiellement deux composantes. La première composante, c'est la structure. Cette structure, c'est un espace-temps. Vous avez trois dimensions d'espace, une dimension de temps, qui forment un continu, et ce continu, on l'appelle l'espace-temps. Ce continu, en réalité, il est déformable. C'est quelque chose qui n'est pas très intuitif, puisque lorsqu'on pense à trois dimensions, lorsqu'on pense à la largeur, la hauteur et la profondeur. On peut mettre un système d'axes qu'on peut décrire avec trois doigts. Mais en réalité, il faut imaginer que ce système d'axes, il faut déjà le compléter par une dimension supplémentaire qui est le temps, et qu'en plus, ce système d'axes, il est déformable, un petit peu comme des traits qu'on aurait mis sur un caoutchouc, et on tire sur le caoutchouc. Alors, il est déformable, et il est déformé par quoi ? Eh bien, il est déformé par le contenu matériel de notre univers. Et la matière, comme l'a montré Einstein, c'est de l'énergie. Hein ? D'après sa célèbre formule, E égale M6. Ah non, c'est pas ça. E égale MC carré. Bon. En réalité, cette formule n'est pas aussi générale qu'on veut bien le croire, puisqu'elle s'applique uniquement pour un objet qui est au repos. Lorsque l'objet est en état de mouvement, il faut encore ajouter une énergie supplémentaire qui tient compte de cet état de mouvement qu'on appelle l'énergie cinétique. Alors, la relativité générale, essentiellement, affirme la chose suivante. La géométrie du contenu, enfin de la structure de l'univers, de l'espace-temps, va être déterminée par son contenu matériel. Et la dynamique du contenu matériel va déterminer la géométrie de l'espace-temps. Donc on a une relation de cause à effet réciproque. Cette relation, elle est très bien exprimée par John Wheeler, qui était un collègue d'Albert Einstein, et qui dit la chose suivante. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se mouvoir. Alors, bien entendu, lorsque Albert Einstein a développé sa théorie de la relativité générale, la première chose qu'il avait à l'esprit, c'est de l'appliquer pour décrire la dynamique de l'univers. Si vous voulez, son comportement, son histoire au cours du temps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a considéré que notre univers était constitué d'une sorte de grand liquide, de grand fluide, dont les molécules sont en réalité des galaxies, un petit peu comme l'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. En faisant ceci, il est arrivé à une conclusion tout à fait surprenante. Il a vu que l'univers devait être en expansion. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas, mais alors pas du tout plus Albert Einstein, puisque si l'univers est en expansion, ça signifie qu'il a dû avoir un commencement. S'il a dû avoir un commencement, il y a des chances qu'il y ait un créateur derrière cet univers, perspective philosophique qui ne plaisait pas du tout à Albert Einstein. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, Albert Einstein était un gars assez malin, donc il a regardé ses équations mathématiques, et puis il a vu qu'il y avait une constante dans ses équations qu'il pouvait exploiter. En gros, si vous voulez, je vais parler de géométrie et de matière tout à l'heure, vous avez une équation, et dans le membre de gauche, vous avez des entités qui sont liées à la géométrie, dans le membre de droite, des entités qui sont liées à la matière. Et la géométrie, les termes liés à la géométrie et les termes liés à la matière sont égaux à une constante près. Cette constante près, c'est la fameuse constante cosmologique. Et Einstein s'est rendu compte que s'il donnait à cette constante cosmologique la bonne valeur, mais exactement la bonne valeur, l'univers était statique, il n'était pas en expansion. Donc c'est le premier modèle qui est sorti historiquement, une année après la découverte de la relativité générale, c'est ce modèle statique d'Einstein. Mais ce modèle statique d'Einstein, il a plusieurs défauts. Le premier défaut de ce modèle est d'ordre théorique, puisque si vous ajoutez une particule élémentaire, aussi petite soit-elle, dans l'univers, eh bien c'est la gravitation qui va l'emporter et qui va provoquer l'effondrement de l'univers comme une sorte d'implosion, qui serait le contraire du Big Bang où vous avez une explosion. Et puis si vous ajoutez une particule élémentaire, un électron, eh bien vous allez avoir exactement le contraire, l'univers va rentrer dans une phase d'expansion. Donc ça, malheureusement, au niveau théorique, ce n'est pas tout à fait acceptable. Et puis, il y a eu un deuxième problème relativement important, qui est d'ordre expérimental. Ce problème, c'est que Edwin Hubble et d'autres ont montré que l'univers était en expansion. Donc, si en expansion, il ne peut pas être statique. Donc, ceci a sonné le glas du modèle statique d'Albert Einstein. C'est un autre modèle cosmologique qu'il a emporté, le modèle de l'univers en expansion, qu'on doit à un cosmologue soviétique, Alexandre Friedman, qui est décédé relativement jeune, et un abbé belge, l'abbé Georges Lemaître, que vous voyez en photo ici. Et le modèle de Georges Lemaître contient lui aussi une constante cosmologique, mais il prédit une expansion. C'est un modèle très intéressant, puisqu'il est encore utilisé de nos jours. Sur le plan théorique, il est tout à fait stable. Vous pouvez enlever un électron ou en ajouter un, vous avez le même modèle. En fait, vous pouvez même enlever ou ajouter une ou plusieurs galaxies, vous avez toujours encore qualitativement à peu près le même modèle. Donc, au niveau théorique, il était valable. Maintenant, au niveau expérimental, il a aussi passé plusieurs tests. Tout d'abord, il a été validé par l'expansion détectée par Edwin Hubble, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis ensuite, la découverte du fond d'onde, du fond micro-ondes par Arnaud Penzias et Robert Wilson a permis d'apporter la validation finale de ce modèle quelques dizaines d'années plus tard. Pour vous expliquer comment Hubble a fait pour mettre en évidence l'expansion de l'univers, on va maintenant faire appel à un effet, l'effet Doppler, que vous connaissez tous sur le plan intuitif. Imaginez que vous êtes chez vous, par un dimanche pluvieux, et puis vous allumez la télévision et vous tombez sur une course de Formule 1. Ce que vous voyez, c'est des Formule 1 essentiellement qui se rapprochent des stands et s'en éloignent. Lorsqu'une Formule 1 se rapproche d'un stand, le bruit qu'émet le moteur de la Formule 1 est plus aigu que le bruit réel. Au lieu d'entendre « i », vous entendez un « i », d'accord ? Et quand la Formule 1 s'éloigne des stands, c'est le contraire. Le bruit, le son, est décalé vers les graves. Au lieu d'entendre un « i », vous entendez un « i ». Donc au final, ça fait « i ». Ça, c'est l'effet Doppler. D'accord ? C'est quelque chose de tout à fait intuitif, tout le monde le connaît. Eh bien, ce qu'a fait Hubble, c'est qu'il a utilisé l'effet Doppler pour mettre en évidence l'expansion de l'univers. Alors comment il a fait ? Il n'a pas utilisé des sons qui ont été émis par les galaxies, mais il a utilisé autre chose, d'autres formes d'ondes. Ce n'était pas des ondes sonores, c'était des ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques, c'est la lumière. Donc il a utilisé ce qu'on appelle l'effet Doppler optique. Donc, les différentes galaxies nous envoient des ondes lumineuses, de la lumière. Vous avez ici un spectre lumineux qui va du rouge, qui est la fréquence la plus basse, à la partie bleue qui est ou violette, qui est la fréquence la plus élevée du spectre visible. Et donc, lorsque la galaxie nous envoie de la lumière, si elle se rapproche de nous, eh ben, il va y avoir un décalage. Ce décalage, il va se faire vers la partie des fréquences plus élevées. Il va se faire vers les aigus. Les aigus, les fréquences plus élevées du spectre, correspondent à la partie bleue. Donc, vous avez de la lumière qui apparaît plus bleue qu'elle l'est normalement. Maintenant, si les galaxies s'éloignent, ça va être exactement le contraire. Vous allez avoir un décalage vers les graves, vers les fréquences plus basses. Ce décalage se fait donc vers le rouge. Je n'ai pas pu résister à la tentation de vous présenter ici un petit autocollant de la Société américaine de physique qui dit la chose suivante. If the sticker is blue, then you're driving too fast. Si cet autocollant vous apparaît bleu, c'est que vous allez trop vite, puisque votre vitesse relative est suffisamment élevée pour permettre un décalage du rouge vers le bleu. Je vous rassure tout de suite, la vitesse qu'il faudrait atteindre est quelques ordres de grandeur en dessous de la vitesse maximale que peut atteindre le meilleur avion de chasse, l'armée américaine. Donc il n'y a pas de souci, vous n'allez jamais voir cet autocollant rouge, même si théoriquement, ce n'est pas impossible. Voilà, donc, qu'a découvert Edwin Hubble ? Edwin Hubble a découvert que la grande majorité des galaxies présentaient un décalage vers le rouge. Ce qui signifie que par rapport à notre propre galaxie, la majorité des galaxies s'éloignent de nous. Ça, c'était la première constatation extrêmement intéressante. Puis il y en a une deuxième. La deuxième est la suivante. La vitesse d'éloignement de ces galaxies est proportionnelle à leur éloignement. Et ceci est une signature de l'expansion de l'univers. Ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait, mais je vais vous présenter deux exemples. Pour le premier exemple, je vais avoir besoin de mon assistant Étienne. Alors Étienne a ici un ballon tout à fait réglementaire, hein, il n'y a pas de prestidigitation. Et puis sur ce ballon, vous voyez des taches noires. Ces taches noires sont censées représenter les galaxies. C'est une illustration, bien sûr. Étienne va souffler dans le ballon. Voilà, et en soufflant dans le ballon, la distance entre les galaxies augmente. Pourquoi ? Parce que le plastique lui-même s'étire. Alors, plus les galaxies sont initialement éloignées les unes des autres, plus la vitesse d'éloignement va être grande. Elle va être proportionnelle à l'éloignement parce qu'il y aura plus de plastique entre les galaxies. D'accord ? Merci beaucoup, Étienne. Je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, donc, ce que je vous ai présenté ici avec un ballon, bien sûr, il faut imaginer qu'il y a des dimensions supplémentaires puisque la surface du ballon correspond en fait à l'univers. Et ici, vous voyez que cette surface est en deux dimensions Et en réalité, il y a trois dimensions d'espace, donc il faudrait encore rajouter une dimension supplémentaire. Mais bon, vu qu'on n'arrive pas à visualiser des objets à quatre dimensions, je me suis dit qu'une représentation à trois dimensions serait suffisante. Voilà. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui d'un pain au raisin sec. Donc vous avez ici de la pâte, vous avez un raisin sec qui se trouve au centre, prenons-le comme référence. Vous avez un raisin sec qui se trouve à gauche, qui est initialement à 5 cm du raisin sec au centre. Et puis vous avez un raisin sec à droite, qui est initialement à 10 cm du raisin sec qui se trouve au centre. Et puis bien entendu, vous avez mis de la levure dans la pâte, et la pâte va lever. Et les distances doublent. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le raisin sec qui était initialement à droite à 10 cm se trouve maintenant à 20 cm. Le raisin sec qui était initialement à 5 cm se trouve maintenant à 10 cm. Donc le premier, qui était deux fois plus éloigné, s'est éloigné deux fois plus vite, puisqu'en un temps donné, il a bougé de 10 cm par rapport au premier, alors que le deuxième, lui, s'est déplacé de 5 cm. D'accord ? Donc, ceci met en évidence la loi de Hubble, qui nous dit que la vitesse relative, par rapport à une galaxie donnée, la nôtre par exemple, est proportionnelle à la distance relative. Et cette loi, qui est valable dans le voisinage éloigné de notre galaxie, enfin, quand je dis voisinage éloigné, c'est de très 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 grande distance, mais ce n'est pas l'ensemble du cosmos, met en évidence l'expansion de notre univers. Donc, si l'univers est en expansion, on reprend cette image de la sphère qui contient des galaxies sur sa surface, eh bien on peut passer le film de l'histoire de l'univers à l'envers. Vous avez ici l'axe du temps, vous avez ici le temps t égale zéro, et puis le temps est orienté vers la droite. Alors si vous passez l'histoire de l'univers à l'envers, la taille de l'univers va diminuer progressivement. Diminue progressivement, il devient de plus en plus chaud, jusqu'à finir en un seul point. En ce point, son volume est nul, sa température est infinie, on dit qu'elle diverge, on parle en mathématiques de singularité, et en physique, on parle de Big Bang. En réalité, le terme de Big Bang, qui signifie grand pétard, est un terme qu'on doit à un détracteur du modèle du Big Bang, c'est le cosmologue britannique Fred Hoyle, qui pour s'en moquer a dit « This is just a big bang », et le terme est resté. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette brève histoire du temps, d'une certaine manière, elle trouve son écho dans le prologue de la Genèse, au chapitre 1, verset 1. Au commencement, on pourrait paraphraser en disant au Big Bang, Dieu créa la terre et le ciel. On pourrait paraphraser en disant le cosmos ou l'univers dans son ensemble. La deuxième confirmation du modèle du Big Bang est venue plus tard. Elle est venue en fait dans les années 60, de manière complètement fortuite, par deux ingénieurs électriciens, ce n'étaient même pas des physiciens, qui ont réussi à mettre en évidence une prédiction particulière du modèle du Big Bang dont je vais vous parler maintenant. Après le Big Bang, l'univers était en expansion, son volume a augmenté. Lorsque le volume a augmenté, la température a diminué. L'univers fonctionne comme un frigo. Le frigo a un gaz caloporteur, qui subit une expansion, et cette expansion permet le refroidissement. Alors si maintenant vous mettez de l'eau dans un congélateur, et que vous atteignez la température de fusion, eh bien vous allez avoir des morceaux de glace qui vont apparaître dans cette eau. Pour l'univers, c'était un peu similaire. Au commencement, juste après le Big Bang, l'univers était tellement chaud qu'il y avait une sorte de soupe primordiale de particules élémentaires qu'on appelle un plasma. Ça n'a rien à voir avec la soupe primordiale des biologistes. Et au fur et à mesure que l'univers était en expansion, sa température a diminué. Et puis, il arrivait un moment où la température était suffisamment basse, comment une température très élevée, mais enfin, elle était suffisamment basse pour que les électrons puissent en fait se combiner avec les protons et dans une certaine mesure avec les neutrons pour donner lieu aux particules, enfin aux éléments les plus légers du tableau périodique de Mendeleïev, à savoir l'hydrogène, l'hélium, et dans une certaine mesure, quelques traces de lithium. Et ceci a permis, en fait, aux quasi-particules de lumière, qu'on appelle des photons, de se disperser à travers l'univers. Donc il y a eu un grand flash de lumière à travers l'univers dans son ensemble. Ce grand flash de lumière, qui a eu lieu 380 000 ans après le Big Bang, qui est peu de chose à l'échelle des 13,7 milliards d'années de l'existence de l'univers, ce flash de lumière primordial, on l'appelle le rayonnement cosmique. Et ce rayonnement cosmique, il a été découvert par les deux ingénieurs de Bell Lab. Ces deux ingénieurs de Bell Lab ne cherchaient pas du tout ce rayonnement cosmique. En fait, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était de construire une antenne extrêmement précise pour détecter un rayonnement micro-ondes qui provenait de certains objets d'astrophysique, de certaines radiogalaxies en réalité. Donc, ils ont construit cette antenne à cornet que vous voyez ici, et puis ils ont commencé à faire des mesures. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un bruit de fond. Ils avaient un bruit de fond, ils avaient de la frite sur la ligne, comme on dit, et ils se sont dit, quelle est l'origine de ce bruit de fond? Ils ont été voir l'intérieur de leur antenne à cornet, et puis ils ont vu que des pigeons nichaient dans cette antenne. Donc, ils ont pris une carabine, d'accord? Et puis, ils ont signé la mort des pigeons qui se trouvaient dans cette antenne. Non, c'est pas très sympathique, mais en même temps, ça fait progresser la science. Et puis, comme le dira plus tard Arnaud Penzias, ils ont enlevé le matériau diélectrique blanc, à mot couvert, la fiente de pigeon. Une fois qu'ils ont nettoyé cette antenne, ils ont refait des mesures et ils avaient toujours encore ce bruit de fond qui était présent qui se superposait au signal qu'ils obtenaient. Et donc ils se sont dit, vu que Bell Lab est situé dans la banlieue de New York, à quelques dizaines de kilomètres de la Grande Pomme, ils se sont dit, c'est la pollution électromagnétique en provenance de New York. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur antenne et ils l'ont retourné de 180 degrés, ils ont recommencé leurs mesures. Et ils avaient toujours encore le même bruit de fond. Ils ont fait ces mesures pendant toute une année, et finalement ils ont dû se rendre à l'évidence. L'origine de ce bruit de fond est en fait cosmologique. Et par un concours de circonstances, ils sont rentrés en contact en fait avec Robert Dickey, qui était l'une des personnes qui a fait la prédiction de l'existence de ce rayonnement cosmique. Et ils ont comparé la valeur prédite à la valeur expérimentale mesurée, et ils se sont rendus compte que ces valeurs étaient extrêmement proches l'une de l'autre. Donc ça a été la confirmation de l'existence d'un rayonnement cosmique. Alors il faut savoir que lorsque ce rayonnement a été émis, il était extrêmement énergétique. Mais si vous dessinez des ondes extrêmement énergétiques, c'est-à-dire qu'elles oscillent beaucoup sur un morceau d'élastique, et puis qu'ensuite vous tirez sur cet élastique, la longueur d'onde va augmenter, ce qui signifie que l'énergie diminue. C'est exactement ce qui s'est passé avec le rayonnement cosmique, qui aujourd'hui peut être détecté dans le domaine de fréquences micro-ondes. Ce qui est intéressant avec ce rayonnement cosmique, c'est qu'il trouve un écho dans le verset 3 du premier chapitre de la Genèse, qui dit la chose suivante, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie qui était consacrée à la cosmologie. Je vous ai donné une sorte de vue d'ensemble de la cosmologie. Et on va maintenant passer à une deuxième partie qui est consacrée aux arguments en faveur de l'existence de Dieu. Le premier argument sera l'argument cosmologique en lien direct avec ce que je vous ai présenté. L'argument téléologique, lui aussi, est intimement lié à ce qu'on vient de voir. Et finalement, il y aura un troisième argument qui est l'argument rationnel. Commençons par le premier argument qui est l'argument cosmologique. Cet argument cosmologique, on peut le diviser en trois parties. Premièrement, un commencement est l'effet d'une cause. Deuxièmement, l'univers a un commencement. Comme je viens de vous le montrer, ce commencement correspond au Big Bang. Par conséquent, troisièmement, l'univers doit être l'effet d'une cause. Alors, résumons ce que nous venons de voir dans la première partie. La théorie physique nous affirme que le Big Bang correspond à l'origine de la structure de notre univers, c'est-à-dire de l'espace-temps, de son contenu, c'est-à-dire de la matière, et des lois physiques qui relient la dynamique de la structure et du contenu. La théorie physique s'arrête là, mais l'implication philosophique, elle, est évidente. L'univers n'est pas éternel, il a donc été créé, et en plus de ça, il a dû être créé par une cause qui se trouve en dehors de l'espace et du temps, qui n'est pas matérielle, qui est immatérielle. Cette cause est une cause transcendante. Ceci aussi trouve un écho dans le premier chapitre, premier verset de l'évangile de Jean, où il est dit « Au commencement était la parole », en grec le « logos », et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais maintenant vous lire une citation du pape Pie XII, qui dit la chose suivante. « Plus la science progresse, plus elle découvre Dieu, comme s'il attendait aux aguets, derrière chaque porte qu'ouvre la science. Il semble en vérité que la science aujourd'hui, remontant d'un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire le témoin de ce fiat lux initial, de cet instant où surgit du néant, avec la matière, un océan de lumière et de radiation, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s'assemblaient en millions de galaxies. Vers cette époque, le cosmos est sorti de la main du Créateur. » J'aimerais également vous lire deux citations d'un astrophysicien américain. Il s'agit de Robert Jastrow, qui travaillait pour la NASA, et qui dit dans son livre « God and the Astronomers » À présent, nous voyons comment les données cosmologiques soutiennent la vision biblique de l'origine du monde. Les détails diffèrent, mais les éléments essentiels des modèles cosmologiques et du récit biblique de la Genèse sont les mêmes. La chaîne des événements menant à l'homme a commencé soudainement, un instant précis, par un flash de lumière et d'énergie. Alors, lorsque vous voyez une citation comme celle-ci, vous vous dites « Mais certainement, Robert Jastrow, qui est un Américain, doit être un chrétien, qui plus est probablement un chrétien évangélique. » En tout cas, c'est ce que j'y ai pensé. Et je me suis trompé, puisque c'est un agnostique. Ce qui rend sa conclusion de concordisme d'autant plus pertinente. Et il y a une deuxième citation que j'aimerais vous lire de Robert Jastrow, qui est ma citation favorite de Robert Jastrow. Les théologiens dans la salle apprécieront. Il dit la chose suivante. « Les scientifiques ont gravi la montagne de l'ignorance. » Ils s'apprêtent à conquérir le plus haut sommet, et lorsqu'ils se hissent sur le dernier rocher, ils sont accueillis par une bande de théologiens qui étaient assis là depuis des siècles. Donc la science n'invente pas beaucoup, elle découvre, et de temps en temps, elle se rapproche un peu de la théologie. Voilà, passons au deuxième argument, qui est l'argument téléologique. Cet argument se divise en trois parties. Un réglage minutieux est l'effet d'une cause, c'est la première partie. Les lois physiques sont minutieusement réglées, la deuxième partie, ce qui implique que les lois physiques, troisièmement, doivent être l'effet d'une cause. Alors ce réglage minutieux, en anglais, on l'appelle le « fine tuning ». « Fine » veut dire « fin »,« minutieux ». Et puis le « tuning », c'est le réglage. Pensez par exemple aux anciens autoradios de voiture, les autoradios analogiques. Et puis, pour régler le tuner et trouver votre station de radio favorite, il fallait tourner un petit bouton et l'ajuster avec des doigts de fée. Et bien, pour l'univers, c'est pareil, sauf qu'il y a énormément de boutons qu'il faut ajuster pour que la vie puisse exister. À ce propos, le directeur de thèse de mon propre directeur de thèse, l'ancien président de la Royal Society, Lord Martin Rees, dit dans son livre « Just Six Numbers » la chose suivante, il résume cet argument théologique. Les conditions initiales requises pour que la vie telle que nous la connaissons puisse exister dépendent de la valeur numérique extrêmement précise de quelques constantes physiques fondamentales. Alors je vais maintenant vous donner deux exemples assez caractéristiques. Le premier exemple, c'est celui de la synthèse du carbone. Le carbone, contrairement à l'hydrogène, à l'hélium et au lithium, n'a pas été produit dans les premiers instants, ou disons le premier million d'années de l'existence de l'univers, le carbone a été créé bien plus tard, à l'intérieur d'étoiles, donc c'est une synthèse qu'on appelle une synthèse stellaire, et en fait les noyaux de carbone ont été créés par un phénomène particulier de résonance entre trois noyaux d'hélium. On parle aussi de particules alpha. Pour que ce phénomène ait lieu, Il faut que la valeur respective des constantes physiques fondamentales qui apparaissent dans l'expression de la force de la gravitation soit minutieusement réglée par rapport aux constantes physiques fondamentales qui apparaissent dans l'expression de la force électromagnétique. Et ce réglage est extrêmement fin. Ce réglage est de l'ordre de 10 puissance moins 40. Alors, 10 puissance moins 40, c'est 0, 39 zéros et un 1. Ça vous paraît un petit peu abstrait? Ben, je vous présente une petite illustration de ce 10 puissance moins 40. Imaginez que vous preniez des pièces d'un franc. Ces pièces d'un franc, vous les empilez sur toute la surface de la Terre, jusqu'à la Lune. Puis vous en prenez une, et celle-là, vous allez la peindre en rouge. Maintenant, vous demandez à quelqu'un de venir à l'aveugle, et la probabilité que cette personne tire à l'aveugle la bonne pièce de 1 franc peinte en rouge dans l'ensemble, elle représente à peu près 10 puissance moins 40. Donc vous voyez qu'à la loterie du carbone, l'univers a tiré le gros lot. Et la vie biologique est basée sur la chimie du carbone, sur la chimie organique. Donc vous voyez que c'était quelque chose de tout à fait nécessaire. À ce propos, le cosmologue britannique de Cambridge, Fred Hoyle, dit la chose suivante dans son livre « The Intelligent Universe ». L'interprétation logique des faits suggère qu'une intelligence suprême a trafiqué les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, et qu'il n'y a pas de force notoire agissant à l'aveugle. Et Fred Hoyle avait le sens de la formule, il a même été un petit peu plus loin, il a fait un petit peu de provoque, et il a dit la chose suivante, « La probabilité pour que la vie soit le fruit du hasard est nettement inférieure à la probabilité qu'une tornade crée un Boeing 747 entièrement opérationnel en traversant une décharge. » Voilà, donc ça c'est déjà un fine-tuning, un réglage minutieux qui est assez remarquable. Mais par rapport à celui que je vais vous présenter maintenant, c'est pas grand-chose. Donc on va passer de Cambridge, comme les Anglais le diraient, on va aller dans The Other City, Oxford, pour y rejoindre le physicien mathématicien Sir Roger Penrose, qui a montré que l'univers, à ses débuts, devait être extrêmement bien ordonné. Alors pour les physiciens dans la salle, il fallait que les conditions initiales de l'univers correspondent à une toute petite fraction de l'espace de phase. Une fraction qui est extrêmement petite. Elle est tellement petite qu'on peut calculer sa probabilité, et Roger Penrose l'a fait de manière extrêmement précise. Cette probabilité, elle est de, tenez-vous bien, de 1 sur 10 à la puissance 10, élevé lui-même à la puissance 123. C'est donc un nombre qui a 10 puissance 123 0. C'est un nombre absolument faramineux. Tellement faramineux que je ne peux pas vous donner quelque chose de tangible pour essayer de se représenter ce que ce nombre signifie. Alors écoutons à ce propos ce que Roger Penrose a à dire. Dans son livre « The Emperor's New Mind », Roger Penrose dit « Ceci nous révèle l'extraordinaire précision du dessein du Créateur, une précision de 1 sur 10 à la puissance 10, élevé lui-même, à la puissance 123. C'est un nombre absolument extraordinaire qui a plus de zéro qu'il y a de particules élémentaires dans l'univers observable. Il faut savoir qu'il y a environ 10 puissance 80 particules dans l'univers observable, et c'est une valeur assez conservative. Donc, en résumé, si vous prenez toutes les particules élémentaires qui se trouvent dans toutes les étoiles, dans toutes les galaxies, dans tous les amas de galaxies, de l'ensemble de l'univers observable, et qu'à chaque particule élémentaire vous associez un de ces zéros, il vous reste encore beaucoup plus de zéros à disposition. En fait, le nombre de zéros que vous allez utiliser pour les assigner aux particules élémentaires est négligeable par rapport au nombre de zéros qu'il vous reste. D'accord ? C'est pour vous dire si ce nombre est extraordinaire. En fait, on pourrait même parler quasiment de réglage minutieux ultime. Voilà, passons maintenant au dernier argument. Ce dernier argument, c'est l'argument rationnel, et il est extrêmement intéressant. Il se divise en trois parties. Premièrement, un concept intelligible est l'œuvre d'un concepteur. Deuxièmement, les lois physiques sont des concepts intelligibles. Par conséquent, troisièmement, les lois physiques sont l'œuvre d'un concepteur. Les lois physiques sont des concepts intelligibles, j'en veux pour preuve le fait qu'on peut mettre en équation les lois physiques. Vous savez tous que la deuxième loi de Newton exprime la chose suivante, que la force est égale au produit de la masse fois l'accélération, si la masse est constante. D'accord ? Donc, on peut écrire ceci, F est égal à Emma. On peut l'écrire mathématiquement, on peut la symboliser. Donc, elle est intelligible. Mais on peut se poser la question, finalement, pourquoi est-ce que l'univers régit par des lois? On sait tous que si je prends cette bouteille, que je la lâche, elle va tomber parce qu'elle est attirée par la Terre. C'est une évidence. Même un enfant pourrait le savoir. Oui, mais cette évidence requiert une explication. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Puis il y a encore quelque chose d'autre qui est beaucoup, beaucoup moins trivial que ça. C'est le fait que les lois de la nature soient formulées dans le langage des mathématiques. Elles sont formulées dans le langage des mathématiques qui, en réalité, correspondent au langage de la raison. La raison fonctionne par la non-contradiction, et il se trouve que les lois mathématiques fonctionnent de la même manière, et donc elles se rejoignent. Donc on est capable de comprendre ces lois dans un langage mathématique. Ceci est quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis on peut encore aller plus loin, parce qu'en réalité ces lois, elles ont un autre caractère, c'est qu'elles sont didactiques. Les lois les plus élaborées se déduisent des lois les plus élémentaires. Je prends un exemple. Historiquement, Newton a d'abord découvert les lois de la gravitation universelle, et c'est que plus tard qu'Einstein a découvert les lois de la relativité générale, et que Schrödinger, Heisenberg et d'autres, Dirac, ont découvert les lois de la mécanique quantique. Eh bien, s'il avait d'abord fallu trouver les lois de la mécanique quantique et les lois de la relativité générale, fort est à parier qu'aujourd'hui, on les aurait encore pas découvertes. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle quelque chose sur l'identité du créateur de la cause qui se trouve derrière cet univers. Ce créateur veut nous enseigner quelque chose. Comme un père qui enseigne à son fils les merveilles de la nature qui nous entoure. Eh bien là, c'est pareil. On a un univers qui est une sorte de, si vous voulez, de rébus grandeur cosmique, et on est invité à découvrir ce qui se trouve dans ce rébus. Et ce rébus est à notre portée. Et ça, c'est très intéressant. Donc ceci suggère qu'il y a derrière cet univers un créateur qui se soucie de sa création, qu'il aime, et qui veut lui enseigner les merveilles de sa création. Le fait que les lois de la nature soient compréhensibles, qu'elles soient exprimables en termes de mathématiques, est un état de fait qui a donné beaucoup de fil à retordre aux scientifiques les plus brillants. Alors j'aimerais ici en citer deux. Tout d'abord, l'un des plus grands physiciens mathématiciens du XXe siècle, il s'agit d'Eugène Wigner. C'est grâce à lui qu'on peut interpréter les mesures de particules élémentaires au CERN. Wigner dit la chose suivante. Le miracle de la pertinence du langage des mathématiques pour la formulation des lois de la physique est un merveilleux don que nous ne comprenons et ne méritons pas. Et Albert Einstein dit la chose suivante. Comment se fait-il que les mathématiques, étant après tout un produit de la pensée humaine qui est indépendante de l'expérience, sont si admirablement adaptées aux objets de la réalité? Et Einstein va le résumer de manière courte mais claire. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Et s'il n'y a pas de cause, c'est effectivement un raisonnement tout à fait profond. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les pères fondateurs de la science dite moderne considéraient que l'intelligibilité de l'univers renvoyait vers l'existence d'un créateur. J'aimerais d'abord citer Johannes Kepler, qui dans son livre « The New Astronomy » dit la chose suivante, nous voyons comment Dieu, à la manière d'un architecte humain, a fondé le monde qu'il a ordonné et agencé par des lois. Et Johannes Kepler a permis de dégager trois lois de la mécanique céleste, qui ont ensuite servi de terreau à Isaac Newton pour en dégager sa synthèse des lois de la mécanique céleste et de la mécanique terrestre. Dans son livre célèbre Principia Mathematica, Philosophiae Naturalis, où il dit « Cet élégant système que constituent le Soleil, les planètes et les comètes ne peut être autre que le résultat du dessein d'un être intelligent. Cet être gouverne toutes choses, non comme l'âme du monde, mais comme le Seigneur de toutes choses. » Et ce qui est remarquable, mesdames, messieurs, c'est qu'un autre érudit, 1500 ans auparavant, affirmait déjà essentiellement la même chose. Cet érudit, c'est l'apôtre Paul, qui, dans le premier chapitre au verset 20 de son épître aux Romains, dit la chose suivante. « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Voilà. Ce soir, je vous ai présenté une réflexion philosophique qui est basée sur des réalités scientifiques. On a parlé de Big Bang. Ce Big Bang suggère l'existence d'un argument cosmologique. On a parlé de fine-tuning, qui fait appel à un argument téléologique. Et finalement, on a parlé d'intelligibilité de l'univers, qui fait appel à un argument rationnel. À l'aide de ces arguments, on peut affirmer de manière solide que l'existence de Dieu est scientifiquement raisonnable. On ne peut pas démontrer scientifiquement l'existence de Dieu, on ne peut pas non plus démontrer sa non-existence, puisque Dieu est bien au-delà de la science. Par contre, son existence n'est pas en contradiction avec la science. Donc, parce qu'on sait de la science et des implications philosophiques que la science nous suggère, on peut affirmer que son existence est tout à fait scientifiquement raisonnable. Et à ce propos, j'aimerais vous lire un extrait du livre que j'ai publié il y a quelques années qui s'appelle « Et la lumière fut ». Le fait que l'univers ne soit pas éternel, mais qu'il ait été créé ex nihilo, le soin avec lequel il a été conçu, la manière dont il a été finement et harmonieusement réglé pour qu'il puisse abriter la vie, reflète l'omniscience, l'omnipuissance et l'amour de son Créateur et porte la signature d'Adonai, le Dieu de la Bible. Alors on a parlé de Big Bang et on a parlé de création, on peut se poser la question, mais finalement quel est le but de tout cela? Eh bien le but de tout cela est rapporté dans la Bible, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, au verset 16 à 17 et 20, où il est dit « Car c'est en Jésus-Christ qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. C'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. » En guise d'épilogue, j'aimerais vous lire un extrait, une citation d'un prix Nobel de physique qui était aussi un chrétien convaincu et engagé. Il s'agit d'Archer Shaolow. Shaolow dit la chose suivante. « La religion est un excellent arrière-plan pour faire de la science. Pour reprendre les propos du psaume 19, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ainsi, la recherche scientifique est un acte d'adoration en ce qu'elle révèle plus des merveilles de la création de Dieu. » Alors pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Puisqu'il y a dans cette salle, j'en suis convaincu, des étudiants qui étudient la science. Et j'aimerais vous encourager dans cette voie. Faire de la science, si cette science est faite pour la gloire de Dieu, est un acte d'adoration, comme le dit Archer Shaolow. Donc continuez, tenez bon, ça vaut la peine. Et pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui est liée à un verset biblique. Et ce verset biblique, c'est le verset 2 du psaume 111, qui dit la chose suivante. « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Alors je vous laisse deviner où se trouve ce verset. Eh bien, il a été gravé sur la porte d'entrée du Cavendish Laboratory à Cambridge. Et vous savez qui c'est qui a demandé que ce verset soit gravé? C'est James Clerk Maxwell lui-même, qui était un chrétien engagé. Et c'est Maxwell qui a permis l'unification de l'électricité et du magnétisme, dans le cadre de la théorie de l'électromagnétisme. Et c'est cet électromagnétisme qui a permis la prédiction d'ondes électromagnétiques qui correspondent à la lumière. C'est grâce à Maxwell qu'on a une théorie de la lumière. Et Maxwell, comme chrétien, a fait justement ce que mentionne Shaolow, c'est-à-dire qu'il a considéré que son travail était un acte d'adoration. Et j'aimerais terminer cette histoire en disant que c'est ensuite dans les murs de ce Cavendish historique, qu'ont été découverts l'électron, particule fondamentale qui est à la base de l'électronique moderne, donc de tous les téléphones portables et ordinateurs et autres, le neutron, qui est employé abondamment dans les centrales nucléaires, et également la double hélice de l'ADN, qui est très très importante pour les progrès de la médecine. Alors vous voyez, lorsque Dieu est adoré comme il convient, Dieu bénit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.